Financer sans intérêt en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté.
Boulevard 102.1, c'est l'heure du Pit Stop. Pour les 30 prochaines minutes, Gravel et Marceau décortiquent les sujets chauds du jour et ce qui fait réagir le Québec. Ici, c'est sérieux.
Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est jamais plate. Disponible à tous les jours sur la page YouTube de Boulevard 102.1. Voici le Pit Stop.
Hey, gros job de Tommy là-dessus sur l'image sonore. Merci beaucoup, Tom. Puis bon retour avec nous autres. C'est un plaisir de te voir à chaque jour. Salut, Denis Gravel.
Hello.
Comment ça va?
Ça va.
Ouais, mais je tombe à terre.
Qu'est-ce qui se passe?
Olivier Primo se présente pas. Mais je tombe à terre. Le gars s'en va. Geneviève Guilbeault aussi.
Ça brasse en politique, mais ça brasse.
L'enfer.
La suite, c'est quoi?
Eh mon Dieu, je vois mal. Ben, premièrement, je suis vraiment surpris de la décision de Geneviève Guilbeault. Je la crois à moitié. Je pense pas que c'est une décision qui a été prise cet automne. Je pense que c'est une décision qui a été prise dans les derniers jours, ni plus ni moins.
Mais c'est ça. Moi, là, c'est pour ça que je me prononce pas sur ses histoires familiales. Là. Ça lui appartient, puis elle sera jugée positivement ou négativement par ses enfants plus tard. Mais je regarde actuellement sur Québec 125, dans la circonscription de Louis Hébert, c'est le PQ qui passe tempête.
Oui.
Moi et Jeff, ainsi que Max et nos analystes politiques, nous mentionnent qu'à l'interne, c'était la dernière qui aurait été choisie pour le poste de chef de la coalition Avenir Québec. Puis, dans notre entourage, puis c'est pas une étude scientifique, là, mais dans notre entourage, elle fait pas l'unanimité, Geneviève Guilbeault.
Ah, c'est sûr qu'elle avait une personnalité qui était irritante pour plusieurs, puis ça, je pense que ça a fait partie des problèmes qu'elle a rencontrés dans ses années au gouvernement. Puis à partir du moment où elle se retrouve avec les mauvais dossiers, ben ça fait en sorte que c'était une position de laquelle c'était difficile de sortir pour elle. Mais tu sais, je réentendais Antonin Iaccarini puis Marc-André Leclerc, des gens qui nous ont parlé dans les derniers jours, nous dire que autour de Geneviève Guilbeault, il était prêt à se lancer dans une campagne à la chefferie. Là. Donc, c'est un peu surprenant d'arriver aujourd'hui puis là de dire « Ah ouais, finalement, c'est une réflexion qui était là depuis l'automne. Si c'est le cas, pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? »
Puis le blâme de la commission Galant qui s'en vient, où on sait pertinemment qu'elle nous a menti pendant cette commission-là, ça a dû être dur personnellement de se faire mettre la vérité d'en face. Là. Elle connaissait la vérité.
Mm-hmm.
Elle nous a dit qu'elle ne savait pas.
Ouais.
Mais là, finalement, elle savait.
Elle avait pas le souvenir événementiel.
Expérientiel.
Jeff,
dans 10 ans, si tu oublies ça, Geneviève Guilbeault, puis dans 10 ans, on pourrait-tu la voir à la Ville de Québec?
Ah oui, on a la mémoire courte en politique. T'sais, souviens-toi, avant que... Puis là, je fais le parallèle parce que tu parlais de Nathalie Normandeau tout à l'heure. Avant que Nathalie Normandeau se fasse arrêter, les gens la voyaient aller en campagne pour la mairie de la Ville de Québec contre Régis Labeaume. On avait oublié la commission Charbonneau.
Ouais, moi, je suis un peu désillusionné. Là. Souviens-toi, Denis, quand le maire de Laval, Gilles Vaillancourt, avait été arrêté,
oui.
Où on avait appris que sa femme flochait les billets d'argent dans les toilettes.
Là, tu vas nous parler du Vox Pop.
TVA Nouvelle était dans les rues. Moi, je trouve ça tout le temps fantastique, les Vox Pop. Là. Était dans les rues en disant, mais qu'est-ce que vous pensez de Gilles Vaillancourt? Ah, ben c'est un bon maire. Moi, même s'il a fait ça, je le reprendrai demain matin. Laval a progressé.
C'est un bandit, mais c'est mon bandit.
Mais ouais. Les taxes augmentent. T'es pas avec M. Vaillancourt?
Non! Je suis déçu parce que j'aurais voulu voir Geneviève Guilbeault dans la course à la chefferie. Mm-hmm. J'aurais voulu la voir se coltailler avec les autres qu'on connaît peut-être un peu moins, puis ça les aurait amenés peut-être à se dévoiler un peu plus. Pas pour que Geneviève Guilbeault nécessairement devienne la prochaine première ministre ou la prochaine chef de la CAQ, mais je pense que dans le jeu, ça aurait été intéressant de la voir avec Simon-Jolin Parrette, avec Christine Fréchette, juste pour être l'antagoniste, parce que sans ça, t'as l'impression que c'est toute une gang de joyeux matelots là, qui se promènent bras dessus, bras dessous, alors qu'on sait que la réalité, c'est pas ça. Est-ce que la personnalité de Geneviève Guilbeault aurait pu forcer la main de ceux qui la trouvent irritante? Est-ce qu'elle aurait réussi à faire changer le vent de direction? Il y avait comme plein de questions qui vont finalement rester en suspens. En tout cas, pour moi, la course à la chefferie de la CAQ devient un peu moins intéressante avec le fait que Geneviève Guilbeault se présente.
Vendredi, j'ai été rassuré. Je t'en avais parlé la semaine dernière. Moi, le fait qu'un influenceur pourrait briguer la chefferie de la Coalition Avenir Québec, hijacker la chefferie de la Coalition Avenir Québec en faisant vendre des cartes de membres à des petits jeunes influencés de 18 jusqu'à 35 ans pour finalement faire en sorte qu'un premier ministre non élu pourrait être mis au pouvoir avec aucune expérience en politique, ça me faisait peur.
Il y en a beaucoup qui l'auraient fait dans la position d'Olivier oui. Primo. Sage décision de sa part. Puis le post Facebook, on l'a vu, il a été publié en début d'après-midi, vendredi, puis je l'ai lu aux auditeurs avant de le lire moi-même. T'sais. Puis ma première réaction, ça a été de voir que, je ne sais pas si ça vient de lui ou ça vient de gens qui l'ont conseillé, mais l'idée de ne pas brûler d'étape, toi puis moi, on ne peut pas jouer sur le premier trio du Canadien ce soir.
Hey, moi, parce que je suis trop petit.
Oui, c'est sûrement juste ça. Là.
Moi, je suis blessé au genou.
Ouais. Ouais, c'est à cause que tu portes une vilaine blessure.
Voilà.
Ouais, au-delà de ça, il y a des étapes à respecter, messieurs, pour se rendre dans la Ligue nationale. Y a-tu plus Ligue nationale que de devenir premier ministre du jour au lendemain? Puis ça, bien que quelqu'un qui a la réputation d'être une tête brûlée comme Olivier Primo puisse le comprendre, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, je pense qu'il aspire vraiment à une carrière politique sérieuse. Puis ça, c'est la première décision sérieuse ouais. par rapport à une carrière qui va bien s'aligner. Je ne serais pas surpris, moi, qu'il se présente comme candidat. Ça va peut-être être la première étape de son côté, mais l'idée de respecter les étapes et de ne pas profiter du statut artificiel que peut amener celui d'être influenceur de Poutine à grandeur de la province, je pense que c'est la bonne façon de s'amener en politique. Puis tu sais, tantôt, on parlait de Geneviève Guilbeault qui irrite beaucoup à l'interne, à la CAQ depuis bon nombre d'années. Imagine-toi que Olivier Primo défonce la grande porte en disant « Hey, je vais vendre des cartes de membres avec mes influenceurs, c'est pas de même que tu te fais aimer d'un parti. » Puis ça a l'air vraiment important de se faire aimer à l'interne. Donc, c'est ça. Si le gars a une carrière politique sérieuse dans sa vision, je trouve qu'il a pris la bonne décision.
Oui, effectivement. Donc, salutations à Olivier Primo, puis ce sera peut-être pour une prochaine fois. Autre chose que je voulais aborder avec toi, puis tu sais quoi, on plaide tout coupable à un moment donné de l'avoir échappé, mais hier, c'était majeur sur les réseaux sociaux, des commentaires misogynes à l'égard de Geneviève Guilbeault. Tu sais, moi, j'ai annoncé la démission de... l'annonce de Geneviève Guilbeault sur les réseaux sociaux, puis j'ai passé la maudite après-midi, puis je pense que j'ai même pas eu le temps de tout filtrer, là, mais toute la maudite après-midi à enlever des commentaires misogynes à l'égard de cette personne-là. Ouais. Les gens ont aucune idée à quel point ça peut avoir de l'impact dans notre société pour une femme qui voudrait se présenter. Une honnête citoyenne, une femme d'affaires, une gestionnaire qui dirait « Hey, moi, là, ça me tente de me lancer en politique. » Puis elle tombe sur les commentaires misogynes à la grandeur du Québec sur la vice-première ministre qui dit... l'ex-vice-première ministre qui dit « Moi, je quitte. » Puis il y a beaucoup de commentaires de filles, soit dit en passant, c'est pas juste les gars misogynes. Il y a des filles qui sont aussi misogynes.
Il y a beaucoup d'hommes que ça dérange encore
mais
d'avoir
pourquoi?
Des... insécurité masculine. T'as pas confiance en ton pénis. T'as pas... il y a une femme qui prend de la place. Ça prend ma place. Tabarnane, les gars, vos couilles sont rendues où, je veux dire? Ça vous enlève quoi, une femme qui est à la tête d'un ministère ou qui est vice-première ministre? Ça t'enlève rien à toi. Pourquoi ça te frustre à ce point-là?
T'es père de famille, t'as 4 enfants, c'est 4 filles.
Ouais.
Tu devrais aller sur les réseaux sociaux pour ramasser toutes ces putains de misogynes-là.
Écoute, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, je veux dire... Ouais, on va faire attention, parce que... Non, pour vrai, sur les réseaux sociaux, moi, je commence à en avoir mon crise de voyage, là, du monde qui ne savent pas vivre, de l'imbécilité généralisée, de l'insulte qui est menée au top du podium de la médaille d'or. J'ai hâte que les stupides, les crétins et les totons de notre société se retrouvent une petite gêne. Parce que présentement, j'ai l'impression que c'est eux autres qui ont le haut du pavé et qu'il y a beaucoup d'adultes et beaucoup de gens qui ont juste abandonné la conversation en attendant que le ton retrouve une certaine civilité. Puis quand on voit une dame qui a... puis c'est vrai pour François Legault aussi. Tu sais, François Legault, bon débarras, trou de cul, puis tu t'affiches sur les lieux de ton travail... ses réseaux sociaux, avec une belle pancarte « Fuck you, Legault, trop de cul », tu sais. What the fuck,
je comprends qu'il faut relever peut-être le vocabulaire, là, mais tu sais, François
c'est pas juste une question
François
de vocabulaire.
Legault, on l'attaque jamais parce que c'est un homme. On attaque intentionnellement des politiciennes ou des animatrices de radio ou des chroniqueuses parce que c'est des femmes.
Absolument.
Et ça, ça me pue au nez.
Moi aussi.
Puis je pense à toutes ces petites filles-là qui pourraient un jour décider pour toi et moi, lorsqu'on sera rendu en CHSLD, là, qui pourraient faire une maudite belle job en politique, qui vont dire, tu sais quoi, je regarde le sort réservé aux femmes dans des postes comme ça, puis ça m'intéresse pas pantoute. Je trouve que notre société grandira pas.
Moi, je bloque. Quand je lis un commentaire que moi, il me rend pas à l'aise, je bloque. Un misogyne, je le bloque. Je ne vais pas l'avertir, je ne vais pas m'ostiner avec, je fais pas moral, je le bloque.
C'est ciao, bye.
Si tout le monde fait ça, c'est des gens qui très rapidement vont se retrouver isolés et très rapidement, ils vont se retrouver face à eux-mêmes. Puis si on a des auditeurs ce matin qui se comportent comme ça avec des femmes sur les réseaux sociaux... ben, je vous vomis puis je vous méprise. Puis que ce soit Karine Gagnon, que ce soit Geneviève Guilbeault, que ce soit Christine Fréchette, qui que ce soit, vous pouvez parler des idées politiques, vous pouvez dire « j'aime ce politicien » ou « je n'aime pas ce politicien », mais l'espèce d'extra-crémage, pas de couilles, de gars qui semblent pas heureux dans la vie, peut-être qu'ils voient plus leurs enfants, peut-être que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait l'amour, peut-être que c'est des gens qui vivent pas leur orientation sexuelle comme ils devraient, des gens malheureux, ça prend des gens drôlement frustrés pour se gâter à chaque fois qu'une femme qui est dans l'espace public se retrouve dans une position de faiblesse. C'est comme si t'attendais ça depuis, mon Dieu, 3 ans. Hostie, je vais me gâter, ouais. C'est Geneviève Guilbeault, puis elle démissionne. Mais écoute, yes! Peut-être êtes-vous malade?
Peut-être que ces gars-là réalisaient pas à quel point ils peuvent créer un impact hyper négatif dans la société. Puis, tu sais, ils en font une affaire personnelle avec Geneviève Guilbeault, puis ils l'attaquent sur quelque chose de facile. Mais à partir d'aujourd'hui, tu sais, peut-être passer à d'autres choses, aller au-delà du sexe de la personne.
Ouais, mais la pandémie! Man, check l'année sur ton calendrier, là. Peux-tu revenir avec nous autres? T'as ralenti le groupe dans le temps. On est rendu en 2026.
Elle devrait être en prison,
ben
elle
oui,
avec.
Ben oui. Ben oui.
Charles Milliard qui lance sa campagne pour la chefferie du Parti libéral du Québec. Si Mario Roy se retire, ben ça va être un couronnement, là, visiblement.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé, puis il m'en avait parlé la semaine dernière, je sais pas si c'était en onde ou hors d'onde, mais ce sera une campagne sur l'imputabilité qui sera au cœur de son leadership. Puis il n'y aura pas le choix pour le Parti libéral. Non. Ça devrait être le premier des sujets. Si vous êtes à l'intérieur du Parti libéral, vous êtes dans des jobs qui sont des jobs décisionnels, ben si vous avez fait de quoi de mal, vous allez vous faire sacrer dehors. Puis il me l'a dit clairement en onde, ça je m'en souviens, fait que je peux te le dire. Le jour où je deviendrai chef du Parti libéral du Québec, m'avoir les clés du char, puis ça va fonctionner comme moi je veux que ça fonctionne. Puis tous ceux qui vont avoir fait quelque chose de mal vont payer pour.
J'espère que son concept d'imputabilité va dépasser le cadre du Parti libéral, puis que c'est quelque chose qui va amener au gouvernement. L'imputabilité gouvernementale, on dirait que ça n'existe plus. On a un système d'éducation qui tombe en ruine. On a des infrastructures du ministère des Transports qui tombent en ruine. On a des hôpitaux dans le ministère de la Santé qui tombent en ruine. Puis c'est pas de la faute à personne.
Non, c'est de la faute de l'ancien gouvernement.
Ben oui, tout le temps. Donc, l'imputabilité gouvernementale, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup entendre dans la prochaine année. J'aimerais ça l'entendre d'embauche au prochain chef de la CAQ. J'aimerais ça l'entendre étendu au principe du gouvernement de la part de Milliard. Mais les autres aussi. Tu sais, un gars comme Éric Duhaime là, qui aspire à rentrer à l'Assemblée nationale, qui aspire peut-être à faire élire quelques députés dans la région de Québec. Je veux entendre les gouvernements, les ministres, les futurs ministres, les futurs gouvernements me parler d'imputabilité. Si ça marche pas, ça va être de notre faute parce qu'on n'a pas fait la job.
Je reprends les paroles d'Yannick tantôt qui disait « Hey, je m'excuse, je trouvais qu'il y avait un peu de positif à la fin du premier mandat de Donald Trump, mais là, Trump n'a pas de bon sens. » Est-ce que vous pensez que le caucus du Parti libéral, si les enquêtes démontrent que vraiment eu énormément de magouilles dans le camp de Pablo Rodriguez, vont oser le faire? Parce que c'est ça aussi l'imputabilité. Ouais. Ils ont été derrière lui pendant un mois, là, à nous crier que Pablo, c'était la meilleure invention, même si tout ça arrivait. Là.
Pablo, the way to go!
Ouais, tu sais, je m'attends à ce qu'un Marc Tanguay, moi, sorte et dise « Hey, écoutez, j'ai appuyé Pablo Rodriguez pendant un mois, c'est une erreur. »
Ben là, t'as Seth Lacoué qui est sorti en fin de semaine. Elle a dit que, ben, Seth Lacoué, Michelle Seth Lacoué, c'est elle qui était coprésidente de la campagne de Pablo Rodriguez. Elle a dit « Oui, oui, là, j'appuyais M. Rodriguez, mais j'ai toujours su que je voulais travailler avec Charles.
» Ouais, mais ben, c'est ça!
Et Charles, il m'a beaucoup, beaucoup impressionné.
Ouais. Frédéric Beauchemin aussi. Là, t'as appuyé Pablo Rodriguez. On voyait que Rodriguez croyait beaucoup en lui puis il l'amenait avec lui. Puis là, soudainement, hey, Charles Milliard, ça fait bien.
Oui. À partir du moment où t'as une imputabilité à deux vitesses, t'as pas d'imputabilité.
Ben, c'est ce que je pense moi aussi. Là. T'sais, parce que ça va prendre des excuses de ce caucus-là. Oui. Si l'enquête dit, hey, Pablo Rodriguez, c'était tout croche son affaire, puis il y a même des trucs illégaux. Ça va prendre des excuses du caucus de dire, OK, on a amené le Québec là avec Pablo Rodriguez.
Tu peux pas faire semblant que t'étais pas là dans ce bout-là.
Puis que tu l'as pas appuyé.
L'imputabilité, ça commence là.
C'est ça.
J'aime beaucoup les Américains, Denis. Je sais pas si c'est un sacrilège en 2026 de dire que j'aime les États-Unis, mais j'ai toujours aimé voyager aux États-Unis. Je me suis toujours bien entendu avec les Américains. Puis Jeff a un peu vendu la mèche. Là. Je l'ai dit à 6 heures. Je pensais pas le dire à 7 heures, à 8 heures ce matin, mais j'aurais pas le choix de le répéter.
Je m'excuse, je voulais pas le dire.
J'étais dans le premier mandat. Le premier mandat de Donald Trump, quand tu regardes la colonne des plus et des moins, il y avait un petit plus. OK. Et quand les gens criaient au scandale de voir que ce gars-là allait reprendre un second mandat, j'étais là, mais pas de panique, les amis. Pas de panique. Le premier mandat a quand même bien été. Puis Donald Trump, il est quand même bien entouré. Je m'excuse. C'est une catastrophe ce qui arrive actuellement. Là, t'sais, y a du positif, mais il y a énormément de négatif. L'histoire du Groenland, je trouve ça très particulier. Puis ce matin, on est retourné dans nos cours de géo de secondaire, troisième, quatrième année, je pense. Où on nous parlait du fameux détroit de Bering. Là.
Ouais.
Le détroit de Bering, il y a moins de 100 km qui séparent la Russie de l'Alaska.
Oui.
OK. Si tu prends le point le plus proche entre la Russie et l'Alaska...
C'est deux îles, là.
C'est deux îles. Il y a combien de kilomètres?
C'est 4 kilomètres à peu près.
Puis si on regarde la distance entre la Russie et l'Alaska, c'est combien de kilomètres? C'est-tu 4 comme la Russie puis l'Alaska? Entre le Groenland et la Russie, il y a combien de kilomètres?
Combien?
Selon toi, Max?
Une couple de 1000?
Il y en a 5000.
5000?
Oui. Il y a 5663 kilomètres entre la Russie et le Groenland. Il y a 4 kilomètres entre la Russie et l'Alaska.
Mm.
Puis Trump a peur que les Russes prennent parti du Groenland. Ouais. Du Groenland. Pourquoi ça... il ne dit pas la vérité? Il veut le Groenland pour les ressources.
Oui.
That's it.
C'est il veut parce qu'il veut et le gars est devenu un mégalomane complet. Puis il y a du monde inquiet au Canada, mais il y a beaucoup de gens inquiets aux États-Unis aussi. Parce qu'il y a des gens qui voient les après-coups de ça s'en venir. Tu sais, ça va prendre combien d'années réussir à réparer tous les dommages que Trump fait au niveau international aux États-Unis, parce que oui, il y a des gens qui, par l'obligation économique, commencent à se tourner vers d'autres possibilités. Puis oui, on peut faire des leçons de droits humains à tout le monde, puis je vais être dans votre brouette, puis je suis d'accord avec vous autres.
Hey, la Chine, puis le Qatar.
Ben, on est rendu là. Je veux dire, à partir du moment où... C'est une poudrière, les États-Unis, puis le dirigeant a perdu tout contact avec la réalité. Toi, il faut que tu assures la pérennité économique de ton pays. Il faut que tu trouves de nouvelles alliances en attendant que le feu d'artifice se termine. Puis j'ai des amis qui travaillent beaucoup avec des artisans aux États-Unis dans l'entreprise du jeu vidéo, puis ainsi de suite. Puis aux États-Unis, il y a beaucoup de monde inquiet présentement.
Je comprends.
qui savent pas trop comment ça s'enligne et surtout comment ça va se terminer. Je peine à croire qu'il y a encore des gens qui peuvent supporter ce que Trump est en train de devenir. On voit les limites d'une démocratie, puis je vois aussi, moi je le constate, là, qu'il y a beaucoup de gens que la démocratie sont pas à l'aise avec ça. Il y a mieux un profond malade mental qui a la même vision qu'eux autres et qui va enlever toute trace de démocratie que de permettre à tout le monde de voter. Parce que c'est dangereux, la démocratie, hein? Vous le savez, les femmes votent. Tu sais, les femmes qui ont fait élire Justin Trudeau parce qu'il était beau, hein, parce que vous le savez, hein, des femmes, c'est con. Hein. Des gars, ça vote pour les bonnes raisons, mais des femmes, stique c'est cave. Hein,
en passant, il y a du sarcasme.
Oui, il y a du deuxième niveau. Là, oui. C'est vrai que je me suis déjà mis dans le trouble avec ça à Montréal. Ouais.
C'est pas
tu fais bien de le rappeler.
Le sarcasme.
Oui, c'est du sarcasme, mais je vois beaucoup de rhétorique autour de ça. Il y a des gens qui sont pas à l'aise en démocratie parce qu'ils se retrouvent en minorité et sont pas capables de vivre avec le fait que autour d'eux autres, il y a des gens qui pensent différemment. Mm-hmm. Fait que t'as mieux un gros croton qui est de ton bord, qui respecte aucune règle de démocratie interne, externe, internationale, que de donner le crachoir à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des gens autour de toi qui ne voient pas la vie comme toi, tu la vois. Ça, c'est la vraie démocratie.
Hey, je vais vous poser une question parce que j'ai été aux États-Unis dans les dernières semaines. J'étais à Miami et j'ai eu cette réflexion-là. Okay? Mais mettons qu'on prend ici, là, au Québec, combien de personnes suivent les bulletins de nouvelles à la télé, suivent les bulletins de nouvelles à la radio, lisent les sites web de nouvelles? En pourcentage, selon vous, là, total, tout, là, le Québécois moyen?
Entre 60 et 70, d'après moi.
Je suis allé à 20-25.
Moi aussi. J'y allais à 30%.
Moi aussi.
C'est sévère. 20-25. Puis aux États-Unis, ce serait à peu près combien? Vous y allez avec les mêmes chiffres?
Entre 40 et 50.
Je dirais la même affaire. Moi, je suis 20-25.
Aux États-Unis, ouais, moi, je le baisse. J'avais 30 au Canada, je le mets à 20 aux États-Unis.
Pourquoi?
Je pense que c'est l'accès à l'information, peut-être, aux États-Unis.
Il y en a plus.
Oui, il y en a plus, mais il y a beaucoup de communautés défavorisées là-bas.
Ouais. Je te propose que quand tu n'as pas de soucis parce que tu vis dans un endroit où tu te considères comme la puissance avec un P majuscule, tu es peut-être un petit peu moins
c'est
à tes
un
affaires.
Excellent point.
Je pense. Je suggère humblement.
Oui, je suis d'accord.
Ouais. Ben, les gars, je pense que c'est peut-être un peu plus bas, effectivement, aux États-Unis, parce qu'il fait bon vivre aux États-Unis.
Ouais. C'est ça.
La température est adéquate. Là. Pis, on est bien, puis les affaires vont bien. Puis quand tu es un Américain en affaires, ça va vite, puis il n'y a pas grand stress, pas grand souci.
Hey, puis là, on gère des estrades, puis j'ai rien là, pour backer ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que depuis 2 ans, il y a beaucoup plus d'Américains qui suivent l'actualité.
Peut-être en raison de ce qu'ils entendent. Peut-être,
ouais,
effectivement.
Ouais. Ben oui.
Mais on n'entend pas parler, j'ai pas entendu parler de Donald Trump pantoute. Passé 3 jours, là, à peu près, là, total tout, avec mon arrivée puis mon départ, j'ai pas entendu parler de Donald Trump pantoute. Puis je regardais les gens, là, puis dans les cafés, dans les restos, il était pas sur... Il était sur les réseaux sociaux à se geler comme on fait nous autres, là, mais il était pas sur des sites de nouvelles. Ils regardent pas ça. Ça les intéresse pas. Le pays va bien. Peu importe ce que le Grand Orange fait à l'extérieur, ils s'en foutent pour la plupart, parce que le pays va bien, ils ont de l'argent dans leur poche. Quand ils vont à l'épicerie, ben c'est pas une inflation de malade mental, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de mettre de l'argent de côté.
De façon générale, j'ai l'impression que plus tu es inquiet, plus tu vas suivre l'actualité, plus tu vas regarder ce qui se passe autour de toi. Mais il y en a aussi que, volontairement, pour se redonner une qualité de vie, vont avoir le réflexe inverse. Moi, je sais pas vous autres, là, mais moi, il y a des grands bouts où ça me fait vraiment du bien de pas écouter la TV, de pas écouter la radio, puis juste de profiter de temps avec ma blonde, de profiter de temps avec mes enfants. Là,
si j'étais à Miami, je serais moins crack d'actualité parce que je serais sur la plage au soleil. Ben puis la vie serait très, très, très belle. J'irais aux Panthers en gougoune voir mon équipe gagner à Coupe Stanley.
C'est sûr qu'à moins 35 avec le vent dans face, t'es plus souvent assis en avant de la TV.
Ben, c'est ça, avec la monnaie du piton, tu vois, hey, regardez ça. Ouais.
Fait que j'ai l'impression que Trump, il surfe un peu là-dessus sur le fait qu'à peu près 80% des Américains se sacrent éperdument de ce qui se passe à l'international, tant aussi longtemps qu'aux États-Unis, ça va bien.
Ouais, ouais. C'est le principe des gens qui ont jamais vécu de stress. T'sais, on est loin, nous autres, là, des guerres où on nous obligeait à aller se battre pour notre pays. Là,
mais c'est clair qu'à Minneapolis, à l'heure actuelle, sont 85-90% suivent l'actualité.
Exact.
Si ben à Miami, sont 5%.
C'est
Puis là, t'es, c'est circonstanciel avec ce qui se passe avec la police ICE.
Exact. Alors, on s'amuse un peu. C'est lundi. Denis, je sais pas si tu as lu l'article que je t'ai envoyé, un article du Soleil où on parle d'une fête à la Projet X qui a causé des dommages. Ça se passe à Hawkesbury. C'est quand même assez loin de Québec. Mais comme on est des pères et des mères de famille, pour les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont des enfants plus jeunes, ce qui fait en sorte que c'est pas encore arrivé. Et d'autres, ben, ils ont eu des enfants qui ont fait des gros parties à la maison. On se souvient tous, Jeff, de nos parties où on était invités. Puis il y a 10 personnes qui étaient invitées. Puis finalement, on était 60 dans la maison.
Ça m'est arrivé une fois, j'avais perdu le contrôle.
Chez vous?
Oui, chez mes parents.
C'est toi qui a invité tout le monde?
Ben moi, j'avais invité mettons une quinzaine de personnes, mais on s'est ramassé une soixantaine. Il y a eu des trous dans les murs. Mes parents étaient très contents. Non, ça a super bien été.
Okay.
C'était super parti. Le monde était à sa galerie du deuxième étage, puis en bas. Ça allait full bien. Non, j'avais eu le contrôle total de ce parti.
Avez-vous eu du vol?
Non, pas à mon souvenir. Peut-être quelqu'un est parti avec un genre de 40 onces de vodka, mon père qui traînait dans son bar, mais à part de ça, non, il n'y a pas eu de vol.
C'est vrai qu'on faisait ça, on prenait l'alcool puis on remplissait les bouteilles
avec de l'eau.
Oui, et ça, mon père me l'a toujours dit, hey, prends-en, dis-moi-le, mais mets pas de l'eau là-dedans. J'ai donné la même consigne à mes gars. Les gars, c'est là, vous le savez, l'étagère. Ouais. Si vous en prenez, vous me le dites. Hey, on met pas d'eau là-dedans. Là.
Nous autres, il y avait des parties dans les années 90 dans le secteur de Beauport-Courville.
Oui.
Et c'était des parties qu'on appelait des open house. Mm-hmm. Donc, on prenait l'autobus où on partait en bicycle à pédale. Puis on arrivait là, puis il y avait peut-être 200-300 personnes, puis ça finissait tout le temps avec la police dans la place. Puis naturellement, à l'intérieur de la maison, pour les parents qui n'étaient pas là, quand ils revenaient, c'était une catastrophe. C'est encore arrivé à Hawkesbury, où des jeunes ont décidé de faire un party de maison, et ils ont perdu totalement le contrôle. 200 ados et des jeunes adultes qui étaient présents dans cette maison-là. Le jeune voulait inviter à peu près une dizaine de personnes. Se sont ramassés 200. Les toilettes ont débordé parce qu'à un moment donné, il a manqué de papier de toilette. Ouf. Ce qui fait en sorte qu'ils ont pris des lingettes. Donc, tout l'aqueduc s'est ramassé dans le sous-sol. Ouf, ouais. Les jeunes qui étaient au rez-de-chaussée, comme la capacité du plancher n'était pas nécessairement... la capacité était dépassée. Il prenait le plancher comme une trampoline, fait qu'il sautait
brilliant.
À 200 dans la maison pour faire brosser. Donc, ça a occasionné des dommages à l'infrastructure. Oh, yeah. C'est juste hallucinant de voir ça. Là. 167 adolescents qui étaient à l'intérieur de cette maison-là. Ça va occasionner des dommages à peu près à 30-40 000 $.
Mes parents disaient tout le temps, « Hey, si t'as le goût d'organiser un party, gêne-toi pas de le faire à la maison, puis tout ça. » Parce que pour mes parents, c'était plus safe de savoir où j'étais, puis d'être là sans être là. Mes parents étaient pas très inquisiteurs, puis tu sais, nous autres, on restait dans le bois, fait que tu pouvais inviter du monde. T'installais des tentes sur le terrain, t'avais pas besoin de pisser du deuxième étage puis de refouler les égouts. Le monde faisait ça dans le bois, puis tout était beau. Mais j'ai tendance à penser que je vais être un peu comme ça avec mes gars aussi quand ils vont grandir, mais moi, passer 4 personnes de plus chez nous dans la maison, je suis pas bien. Tu sais, je suis un gars qui est comme ça. Là,
t'sais, plate, le bonhomme.
Au réveillon, ouais, là, au réveillon, on a reçu 6, là. Pis c'était tout du bon monde, puis c'était tout agréable, mais je viens que j'ai chaud.
Quand les 15 boys de l'équipe d'hockey sont débarqués chez nous l'autre jour pour un party, ma blonde filait pas à tabarouette, peut te le jurer. Moi, j'étais tout heureux. J'étais comme, les boys sont ensemble, prennent de la bière, l'esprit d'équipe.
Là, vous autres, c'est différent. Vous êtes une famille recomposée.
Oui.
Fait que, tu sais, d'un bord, faut que tu fasses des sacrifices que tu ferais pas parce que c'est les enfants de ta conjointe ou de ton conjoint.
Exactement.
C'est plus facile quand t'es le père et la mère des enfants de les engueuler puis de dire, là, vous arrêtez.
Oui.
Mais quand il s'agit des enfants de l'autre bord, c'est un peu plus particulier. Mais j'étais un peu comme toi. Moi, j'aime ça garder le contrôle chez nous. Le jour où mes gars vont faire un party pendant que je suis en voyage, je ne connais pas ma réaction. Ouais. Je suis quelqu'un qui... aime bien que mes choses dans ma chambre et dans ma maison ne soient pas déplacées. Tes affaires, tu peux les déplacer tant que tu veux, mais si tu déplaces mes affaires, remêlés à la même place.
Moi, j'aime ça me tourner vers les auditeurs qui ont l'expérience. Là. Vous autres, vous gérez ça comment? Mettons, vous partez en vacances ou en voyage, puis les ados, les grands ados restent à la maison. C'est quoi les règles?
Centre jeunesse.
Vous invitez personne, vous appelez police avant de partir, vous lui bloquez l'accès à Facebook pour pas qu'il lance d'invitation. Comment ça fonctionne et est-ce que c'est respecté?
Des voisins.
Ouais.
Souvent, t'avertis les voisins.
Uh-huh.
Souvent, l'oncle ou la tante vient faire son tour pendant la soirée si toi, t'es en voyage.
Ouais.
Souvent, les parents appellent aussi à savoir si tout est correct ou viennent faire leur tour. Ou bien des fois, puis là, c'est ce que je vois le plus avec les gens de notre génération, à nous autres, Denis, avec les jeunes enfants, c'est que on supervise même si c'est plate pour les enfants.
Ben oui. Puis ben, c'est vrai que maintenant, il y a plein de moyens, puis je sais pas où je me place dans tout ça, mais tu sais, il y a moyen de regarder chez vous quand t'es pas là, là. Les gens qui ont des animaux, des fois, ils font ça. Là. Ah, on va aller voir si les chats sont corrects ou ainsi de suite. Est-ce que tu laisses des caméras de surveillance? Moi, je suis un peu père poule. Est-ce qu'on peut louer des cellules pour 4-5 jours au poste de police juste pour s'assurer que tout se passe bien? Non, sérieusement, c'est un, pour moi, en tout cas, quand je lis des histoires de même, c'est un cauchemar de parents, mais même moi, en tant que jeune, me retrouver dans une affaire de même, là. Moi, j'ai pas de fun, là. Quand tu vois que tout le monde se met à sauter sur un plancher pour le faire descendre au rez-de-chaussée, là, ça m'est arrivé une fois, à Chicoutimi-Nord, d'arriver d'une place où c'était littéralement un open house. Puis à un moment donné, il y a du monde beaucoup plus vieux que nous autres qui sont arrivés. Puis là, ça se faisait des lignes de coke sur la table de la cuisine. Hein? Puis je me disais, hé, mon Dieu Seigneur, quand les parents de ce jeune-là vont revenir... puis qui vont voir que ce qui reste sur la table, c'est pas de la farine. D'après moi, c'était le dernier party organisé dans cette maison-là. Là. J'ai sacré mon camp. Moi, à partir du moment où j'ai vu ça, là, j'ai fait « OK, c'est pas un party pour moi ici, moi je m'en vais me promener dehors. »
J'ai accepté, c'est par texto que ça commence à rentrer au 418-971-101, j'ai accepté que mon enfant ait Snapchat, c'est moi-même qui l'a installé. Je sais donc comment ses amis ont localisé chez nous.
OK.
Donc, j'imagine que les gens se sont pointés. Mais je ne sais pas comment on faisait, nous autres, pour savoir c'était quoi les endroits pour l'open house. Je ne me rappelle pas. Ils nous disaient c'était quel quartier, puis on retrouvait l'open house dans
suivait
le quartier.
Suivait le bruit.
Puis nous autres, c'était ça. Des années 90, la problématique, là, c'est que les gens rentraient dans la maison, volaient tout ce qu'il y avait à voler, puis ça créait le camp.
Wesh.
Fait que ça part d'une belle intention. Je vais faire un party, je vais rendre tout le monde heureux. Ils vont tous venir chez nous pour finalement se ramasser que les bijoux de la madame, les trucs du monsieur, les outils du monsieur ont tous été volés.
Il y a un documentaire Netflix là, sur un genre de projet X comme celui-là, une jeune fille dans une petite municipalité qui fait un party de fête puis qui invite tout le monde à venir chez elle. Mais tout le monde. Là, puis l'invitation commençait à se promener puis à faire le tour. Puis là, tout le monde se disait, « Hey, on va transformer ça en projet X, puis ça va être le plus gros party open house. » Puis là, il y avait des gens qui se préparaient à aller faire une fin de semaine de camping dans une petite municipalité, dans une petite maison où il n'y avait pas de sécurité. Puis écoute, je vous le recommande, là, j'ai pas le nom du documentaire en tête, mais si vous fouillez un peu des nombreux documentaires de qualité que Netflix vous offre, là, vous allez le retrouver, ça va vous faire...
C'est-tu Trainwreck The Real Project X?
Oui, c'est ça, exact. C'est, vous allez passer une couple de nuits blanches de parents après avoir regardé cette affaire.
Salut, j'ai fait un partant en cachette une fois quand j'étais jeune et ça a beaucoup dégénéré au point qu'on a été volé dans tous les recoins de la maison. Ouf. Il faut juste prévenir les jeunes que certaines personnes pourraient débarquer dans le party et qui ne seraient pas invitées. Et malheureusement, on a perdu le contrôle.
Ouais.
Ça fait 20 ans et presque tout le monde que je croise encore m'en parle. Eux, ils ont eu du plaisir, pas moi.
Aïe. Je me souviens que ça avait fait l'actualité aussi à Québec, une maison qui avait été, démolie littéralement pendant un party où tout le monde était invité, puis finalement, t'en attendais 15, mais ces 15-là n'ont invité 15 autres et ainsi de suite, puis finalement, tu te ramasses, il y a 300, 400 flots dans la maison, autour de la maison. Ah, quel cauchemar.
Alors, juste m'imaginer, tu sais, des fois, j'ai de la misère que mes gars viennent chercher les prises pour leur cellulaire.
Oui.
Parce que les autres, ils perdent ça. Là,
ben
ça,
oui.
Ben oui.
Ils perdent ça tout le temps. Ça disparaît, les blocs, les fils.
On en cherchait encore chez nous hier.
Ils viennent tout le temps les chercher dans ma chambre. J'ai de la misère à ce que mes gars rentrent dans ma chambre pour prendre ça, parce qu'ils remettent jamais les affaires. J'ose pas imaginer. J'arrive chez nous après une semaine de vacances, puis j'apprends qu'il y avait 200 personnes dans la maison. La panique générale. Denis Gravel, on t'écoute à 14h tantôt.
Dormirai pas de la nuit. Le maire Marchand, ce soir, oh! 16h30.
Qu'est-ce qu'on avait prévu, jaser avec le maire Marchand? Tu sais, on s'était dit, il y a de ça quelques semaines, promets-moi que tu vas y en parler.
Faut que je replonge dans mes archives.
Les bidets.
Les bidets.
Je suis là. Hein?
Pourquoi c'est Lévis qui a une subvention, c'est les bidets, puis pas nous autres?
Les bidets, les caméras thermiques, on a plein de choses à jaser.
Ah, c'est vrai. Ben oui, les caméras thermiques. 8h19, donc il va être là vers les entours de 16h.
16h30.
Merci beaucoup. On revient.
Allez. Marceau le matin. Marceau.